Bonsoir. Je rappelle donc que nous en sommes à notre avant-dernière séance. Je déborde un peu par rapport à des cours qui ont commencé en octobre parce que, comme vous vous en souvenez, j'ai dû m'absenter pendant la fin du mois d'octobre. Donc nous terminerons notre travail le jeudi 9 janvier avec les deux dernières heures de cours. Avant de continuer notre texte, et je suis ambitieux d'essayer de couvrir la fin du chapitre 19 et le chapitre 20 ce soir, nous verrons bien ce qui sera possible concrètement, je reviens sur une question qui m'a été posée à partir du verset 31 du chapitre 18. Donc c'est le début pratiquement du procès de Jésus devant Pilate, que je traduis pour ma part, donc la parole prêtée aux Juifs, à nous il n'est possible de tuer personne, que l'on traduit en général, comme on me le reproduit ici, il ne nous est pas possible de mettre quelqu'un à mort. Oui, alors je préfère la traduction littérale parce qu'elle fait mieux ressortir « Il ne nous est pas possible de tuer. Il ne nous est possible de tuer personne. » Ce qui se vérifie avec le décalogue, me dit donc la personne qui pose la question, qui interdit aussi la convoitise et la jalousie, qui peuvent conduire au meurtre. Voilà, oui, en général, tout. Jean dira dans la première épître, tout pécheur est homicide. Hein? Donc le péché, dans sa logique, conduit à la mort. Donc en effet, il ne s'agit sans doute pas seulement du précepte du décalogue, et sans doute pas non plus uniquement, il ne s'agit pas du décalogue, d'abord et même avant tout, mais enfin, dans le décalogue, on voit bien que le précepte de ne tuer personne désigne l'assassinat. Ce n'est pas n'importe quelle mort, c'est le meurtre. Donc ceci relève en effet du décalogue et on pourrait dire de la loi en général, la lecture qu'en fait Paul, n'est-ce pas ? La loi conduit à la mort parce que, humainement parlant, il est impossible de l'honorer. Enfin, ça, c'est la problématique paulinienne. Et donc, on dit, toutefois, la loi du talion subsistait en Israël, comme le prouve la péricope de la femme adultère. Alors, je ne sais pas si la loi du talion intervient dans la femme adultère. Mais bon, et cette loi du talion prescrivait expressément la mort pour les cas de blasphème. Oui, là, il faudrait vraiment voir de près en quoi consiste la loi du talion. La loi du talion, fondamentalement, il est utile d'y revenir très brièvement, n'est-ce pas ? C'est une limitation de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Alors, Jésus nous dit dans le discours sur la montagne, en Matthieu, qu'il faut dépasser en quelque sorte ce précepte en aimant l'ennemi. Mais donc la loi du talion est, disons, quelque chose de positif, n'est-ce pas ? C'est le contrôle de la vengeance. Voilà. En général, la vengeance, la violence qui répond à la violence est plus forte que la première qui l'a enclenchée. Donc la loi du talion limite, endigue la spirale de la violence. Alors, or, les pharisiens avaient souvent accusé Jésus de blasphème parce qu'il se disait fils de Dieu et il l'avait même menacé de lapidation, c'est vrai. Comment peut-on alors interpréter le verset 18-31 disant que la loi interdisait aux Juifs de tuer quelqu'un et donc Jésus ? Ne fallait-il pas que la sentence soit une sorte de condamnation universelle par Caïphe ? Et le Sanhédrin, bien sûr, mais aussi la foule qui crie « Libérez Barabbas !» avec Pilate et les soldats romains qui crachent sur lui et tournent en dérision Jésus-Christ. Ne fallait-il pas l'horrible supplice de la croix pour qu'elle devienne signe de résurrection et d'espérance. Alors oui, tout ça est très vrai, mais il y a beaucoup de choses à la fois. C'est une question à tiroir, comme on dit. Alors, je commence par insister sur un point sur lequel je n'ai pas pu insister, parce que bon, le temps commence à nous faire cruellement défaut, n'est-ce pas ? Mais enfin, l'affirmation, historiquement parlant, évoque d'abord et avant tout l'impossibilité sous occupation romaine de juger quelqu'un en le condamnant à mort parce que cela ne relève pas de la compétence civile et religieuse des Juifs sous occupation romaine. C'est ça le point, d'abord. Nous n'avons pas le jus gladi, c'est un terme technique, n'est-ce pas, le droit du glaive, hein, qui justement, l'expression romaine latine l'exprime, ne relève que de l'autorité romaine. Hein. C'est le premier point à souligner. Et donc, à ce titre-là, en effet, les Juifs n'ont pas le pouvoir de mettre Jésus à mort. Ils peuvent, de l'intérieur de leur législation, accuser Jésus en le condamnant à mort très tôt, dès la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, selon la version johannique, parce qu'il viole la loi en violant le précepte sabbatique et en se disant lui-même fils de Dieu. Donc ça va très vite. Alors, disons, les Juifs peuvent, disons, exprimer une sentence qui condamne quelqu'un à mort, ça c'est une chose. Quant à pouvoir exécuter la sentence, c'est une autre chose. Et sous occupation romaine, ce droit-là ne leur est pas permis. Voilà, il ne nous est pas possible de tuer quelqu'un. Il ne nous est pas possible de mettre, il ne nous est possible de tuer personne. Voilà. Alors, à un niveau plus théologique, si l'on peut dire, parce que tout énoncé dans Jean, nous avons appris à le voir sans cesse, n'est-ce pas, toujours à double entente. En effet, aussi, à la lumière du décalogue et de la loi juive, tu ne tueras pas, donc, normalement, on ne peut assassiner personne. Maintenant, en effet, en cas de lapidation, ou dans le cas de certaines fautes graves, il y a la lapidation, mais il faut savoir que, assez vite, et finalement vraisemblablement aussi déjà à l'époque du Nouveau Testament, encore que la datation des midrashim, n'est-ce pas, et des traditions juives rabbiniques dans le Talmud de Jérusalem et de Babylone sont encore à leur premier balbutiement pour la datation. Mais enfin, assez vite, en Israël, il peut y avoir des peines compensatoires à la place de la lapidation, comme par exemple une indemnité financière. C'est le cas pour l'adultère. Ça, on pourrait trouver des textes allant dans ce sens. Donc, dès que l'on entre dans le domaine de l'exercice, la mise en œuvre des préceptes de la loi, qu'ils soient du décalogue ou des codes différents qui se sont succédés pour mettre en pratique le décalogue, il faut toujours tenir compte aussi de l'interprétation que la tradition donne de la loi. Hein. Parce que, là, ça c'est un principe fondamental aussi du judaïsme qu'on a redécouvert dans le christianisme il n'y a pas tellement longtemps, n'est-ce pas ? Il y a la loi écrite et il y a la loi orale. Et la loi orale est aussi importante que la loi écrite, parce que c'est la tradition vivante. Et la tradition catholique hérite de ce principe d'une interprétation de la loi qui a autant d'importance que la loi elle-même. Hein ? Puisque, à la limite, elle légifère sur la manière de mettre en pratique la loi. Alors, il y a des interprétations que Jésus admet, et c'est au niveau des interprétations qu'il y a des conflits, parce que, justement, il prétend, notamment à propos de certaines lois alimentaire, de pureté rituelle, que, bon, on exagère et qu'on risque de passer à côté de l'essentiel qui est toujours la miséricorde et non une observance trop littéraliste. Ce avec quoi la majorité des pharisiens devraient être d'accord, parce qu'ils adoptent exactement le même principe. Jésus se meut dans, disons, fondamentalement la logique pharisienne d'interpréter la loi. Voilà. Alors, à un autre niveau, je crois qu'il joue très fort dans le texte de Jean, il y a ce que l'on appelle l'ironie johannique. Il faudrait exclure de cette ironie tout caractère offensant ou blessant, mais je pense quand même que dans le contexte ici, la parole prêtée aux Juifs signifie qu'ils veulent se garder purs de toute infraction de la loi en contexte de fête pascale pour ne pas se rendre impurs et fêter rituellement de façon correcte la fête de Pâques. Alors, l'ironie consiste précisément, et ça tout le contexte le montre, que au nom justement d'une certaine pureté rituelle, il passe à côté de celui qui est l'incarnation même de la loi, puisqu'il il se nourrit de la volonté du Père qui s'exprime formellement dans la loi, le décalogue et ses interprétations en Israël. Voilà. Voilà ce que je dirais et qui fait comprendre à quel point, justement, chaque verset pourrait être épluché et nous conduire chaque fois, disons, à retarder une perspective d'ensemble qui m'est cependant demandée et donc par... conscience professionnelle, j'honore la demande qui m'est faite par le directeur du premier cycle d'essayer de couvrir l'ensemble du quatrième évangile. Et donc, il est grand temps maintenant d'entrer dans ce qui est peut-être le point culminant par excellence de tout l'évangile selon Jean et qui prend une importance à nul autre pareil dans Jean par rapport à toutes les autres traditions du Nouveau Testament, à savoir le moment formel de la mort de Jésus. Donc, là encore, nous allons nous servir de certains petits moyens pédagogiques dont vous êtes munis pour avancer d'un bon pas. Donc, vous voyez que la traduction étale les versets 23 à 42 du chapitre 19 en trois panneaux. Et si vous rejetez un coup d'œil aussi sur la structure de l'ensemble du quatrième évangile, comme je l'ai encore rappelé la dernière fois, j'adopte ce découpage en maintenant unis les chapitres 18 à 21. Si on maintient unis ces chapitres, alors la péricope que nous allons voir maintenant arrive précisément au cœur des chapitres 18 à 21, ce qui est tout à fait normal puisque c'est le moment de la mort qui est le point culminant du procès de Jésus. Et comme nous allons le voir, un certain nombre d'indices favorisent une lecture de cette mort dans le sens d'une espérance en la résurrection sur le lieu même de cette mort. Pour le dire en d'autres termes, Jésus meurt de telle sorte que cette mort n'est pas la fin de tout, mais au contraire, c'est... en quelque sorte, le retour du Fils, là d'où il est venu, du sein du Père, et cela coïncide aussi, comme nous allons le voir sur le texte du verset 28, avec l'achèvement, le parachèvement, l'achèvement parfait de l'Écriture. Alors ça, en tant que disons interprète de Jean, j'y tiens un petit peu comme à la prunelle de mes yeux, parce que c'est le principe fondamental de mon interprétation. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'influence majeure qui s'exerce sur le rédacteur ou les rédacteurs du quatrième évangile soit des influences grecques, soit hermétiques, ça c'était la grande opinion d'un grand exégète anglais, Charles Harold Dodd, hein, l'hermétisme. Je ne pense pas non plus que le principe fondamental d'interprétation du quatrième évangile remonte au mandéisme, ça c'était l'opinion de Bultmann, c'est-à-dire une gnose juive inspirée de certains textes apocryphes comme les Odes de Salomon, etc. Donc, non, je crois que vraiment, tout est écrit du début à la fin du quatrième évangile en clé d'accomplissement en Jésus et dans les croyants de l'Écriture. L'Écriture composée, comme nous allons devoir nous le rappeler à la lumière du début du chapitre 20, si nous y arrivons, qui est donc l'Écriture composée déjà à l'époque de Jésus. Bon, le canon peut-être n'était pas fixé, il n'y a pas de canon juif d'ailleurs, je crois l'avoir déjà dit. Pour moi, le canon, c'est une réalité chrétienne qui suppose le mystère pascal. Enfin, à l'époque du Nouveau Testament, la Torah, le Pentateuque, était déjà en place, puisqu'il remonte, et ça, toutes les études historiques ne font que confirmer l'hypothèse de toujours. Le Pentateuque remonte à l'époque de Esdras-Néhémie, donc retour d'exil, au plus tard 4e siècle avant le Christ. Et alors, les écrits prophétiques et sapientiaux ont déjà une ampleur considérable. Hein, bon, il y a des textes qui ne sont pas retenus dans le judaïsme parce qu'ils ne sont pas écrits originellement en hébreu, comme le livre de la Sagesse, par exemple. Enfin, l'Écriture est déjà, disons, une référence très, très polymorphe et nuancée qui permettent de dire beaucoup de choses à propos, justement, de la manière dont elle s'accomplit dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, trois volets de ce tableau, un triptyque. Vous avez aussi les sous-titres que j'adopte. Le partage des vêtements, l'accomplissement de l'Écriture et les disciples femmes en majorité, mais sans oublier le disciple que Jésus aimait, les versets 23 à 27. À l'autre extrémité, vous avez un schématisme analogue, le coup de lance, qui correspond au partage des vêtements, l'accomplissement de l'Écriture, mais qui prend aussi un relief particulier parce que il y a non moins de deux citations explicites, elles-mêmes composites, pour illustrer le côté transpercé, et enfin l'ensevelissement par deux disciples, Nicodème et Joseph d'Arimathie, qui font pendant aux quatre femmes, car je crois qu'il y en a quatre, et le disciple aimé. Et au cœur, les versets 28, 29 et 30, l'achèvement de tout et le parachèvement de l'Écriture. Donc, avec de façon assez énigmatique et elliptique, ce verset 29, on est un peu surpris de voir le relief que prend un vase gisait de vinaigre plein, une éponge donc pleine du vinaigre, autour d'une hysope l'ayant posée. On ne sait pas très bien qui, le sujet de ce verbe n'est pas bien explicite. Ils l'ont porté auprès de sa bouche. Alors, revenons un petit peu au ralenti sur ces trois phases. Il s'ouvre donc la première sur les soldats, donc des personnages païens, romains, étant donné justement l'occupation romaine que nous avons rappelée tout à l'heure à propos du jus gladi, le droit du glaive. Et donc ce qui est remarquable là, c'est que ces soldats ne sont pas du tout présentés comme une soldatesque déchaînée, violente, comme on pourrait se le représenter éventuellement en faisant dire au texte ce qu'il ne dit précisément pas, en se projetant dedans, n'est-ce pas ? Non, non, les soldats font ce que permet la loi, et en particulier la loi romaine en matière d'exécution d'une sentence de mort. Quand ils crucifièrent Jésus, donc c'est après la scène qui conclut le procès avec l'exécution de la sentence dans les versets immédiatement précédents, ils prirent. Alors, voilà de nouveau, n'est-ce pas, le verbe prendre, ils prirent. C'est un verbe qui a toujours aussi une connotation curieusement positive. Hein, c'est un verbe qui évoque la réception. Hein. Ils prirent ses vêtements. Le terme renvoie aux vêtements que Jésus a déposés au lavement des pieds, dont nous avait bien parlé Dominique Hernandez. C'est exactement le même terme. Et ils firent quatre parts. On se demande comment ils y arrivent, parce que vraiment, c'est un bien maigre butin. Mais enfin, l'idée est claire. On apprend par là qu'ils sont quatre. Ils firent quatre parts. Nouvelle réminiscence du chapitre 13. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi, dit Jésus à Pierre, qui se récuse. Donc, l'idée est claire. Les soldats participent à cette scène. Ils entrent dans ce qui se réalise à ce moment-là, dans la mort de Jésus. Ils y prennent une part active. Les vêtements, dans Jean, étant toujours le corps, comme dans toute la Bible. Le vêtement, c'est le corps. À l'époque, le père Edgar Olot, que nous avions comme professeur d'écriture sainte de Nouveau Testament à Fourvière, jadis, n'est-ce pas, avait fait une thèse, une belle thèse, un beau travail sur la symbolique du vêtement qui a été publié dans la collection Théologie de Fourvière à l'époque. Donc, et chez Jean en particulier, le vêtement, c'est le corps. Nous allons encore voir l'insistance à ce sujet à propos des linges dans le contexte du chapitre 20, la première. Première scène sur la résurrection au chapitre 20. Et donc, on y insiste, à chaque soldat, une part. Quand il y a de telles insistances, il y a un message. Et le message est étonnant, parce que on parle très peu des soldats dans le quatrième évangile, et même des païens, c'est pas du tout le sujet majeur du quatrième évangile. Le problème majeur, la question fondamentale, c'est le rapport de toutes les factions de la population juive de l'époque que Jésus essaye de rassembler dans l'unité, hein, qui a été rappelé, l'argument de Caïphe, voilà, un seul pour le peuple, pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Donc c'est un problème surtout interne au judaïsme, interne à Israël. Or, voilà qu'au moment crucial, s'il en est, ces soldats entrent comme une part importante, essentielle, dans cet événement décisif, finalement, surtout de l'histoire d'Israël. Mais ils sont là pour faire comprendre que l'histoire humaine, universelle, païen et juif compris, est aussi concernée par là. Voilà, c'est ça c'est le grand point. Et alors, ce qui est aussi étonnant, vous voyez, j'ai respecté le caractère syntaxique assez étrange de la deuxième partie de la phrase, les vêtements quatre parts et la tunique, qui prend là, justement, un relief tout à fait étonnant. Elle était la tunique sans couture, à partir des choses d'en haut, tissées à travers, tout entière. Alors, c'est un peu, je vais vous prendre la traduction qui vient de sortir de la Bible liturgique, n'est-ce pas, pour voir comment, voilà. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ça, c'est un langage assez lisse. La version que je vous donne là est beaucoup plus rêche, n'est-ce pas, mais la version originale ne l'est pas moins. Donc, tout d'abord, le relief pris par la tunique et par un certain nombre de détails. Elle est sans couture et elle est tissée à partir d'en haut. Ça disparaît un peu, n'est-ce pas? tissée tout entière d'une pièce de haut en bas. Oui, mais en haut, c'est l'adverbe qui avait été utilisé, n'est-ce pas, dans le dialogue entre Jésus et Nicodème, pour dire l'engendrement d'en haut, hein, que Nicodème interprète dans le sens de nouveau. Hein. Donc il y a une sémantique johannique qui joue là, qui fait comprendre qu'il y a quelque chose dans cette tunique qui révèle ce qui vient d'en haut, chez Jésus, dans son corps, de verbe incarné. Hein. Au point que certains qui ont étudié le dossier disent, bon, il peut très bien s'agir là d'une tunique que lui aurait donnée sa maman, n'est-ce pas? Bon, mais c'est assez invérifiable. Toujours est-il que les deux orientations de l'interprétation vont dans le sens, depuis Saint-Cyprien, donc avant Augustin, vous avez ça dans la note en bas de page numéro 1, martyr en 258, donc c'est cette interprétation-là qui a dominé en particulier dans la tradition occidentale, pour voir dans cette tunique sans couture un symbole de l'unité de la communauté des croyants, l'unité de l'Église. Alors soit, et je pense qu'en effet, il s'agit entre autres de cela, mais de nouveau, ce qui est tout à fait étrange et étonnant et qui demande explication, c'est que cela passe par les soldats païens. Et ça fait réfléchir. Hein? Quelque chose de l'unité du corps du Christ, hein? C'est ça la tunique finalement, hein? Et le corps du Christ qui passe aussi par les membres de son corps, les croyants, est assuré par des non-croyants. C'est intéressant, ça. Ça fait réfléchir. Combien, même dans les époques de persécution, n'est-ce pas, l'Église n'est jamais vraiment elle-même que quand elle est persécutée, hein, ne serait-ce que par l'indifférentisme ambiant que nous connaissons dans nos pays industrialisés. Voilà. Il y a quelque chose de l'extérieur de l'Église qui invite, qui force l'Église, les croyants, à être corps du Christ. C'est ça l'idée. Et voilà. Alors, à partir de la tunique sans couture et avec les autres détails aussi, voilà, d'une seule pièce, on a, c'est récent, c'est au siècle dernier, n'est-ce pas, que des comparaisons avec les antiquités juives de Flavius Joseph ont attiré l'attention sur le fait que la tunique du grand prêtre, elle est aussi sans couture. Alors on dit, voilà, c'est la version johannique de la tunique du grand prêtre dont on parle plus abondamment dans l'Épître aux Hébreux. Oui, pas sûr du tout, parce que la tunique du grand prêtre, sans couture, c'est une tunique d'apparat, hein, avec, disons, des ornementations pour chacune des 12 tribus d'Israël, etc. Ça n'a pas grand-chose à voir avec cette tunique qui est ici plutôt un vêtement de sous, hein, et pas un vêtement d'apparat, et qui est finalement le seul vêtement qui recouvre encore le corps de Jésus flagellé et crucifié. Enfin, qu'il recouvrait, parce qu'il est nu sur la croix. Hein, donc, c'est quand même impressionnant aussi. On se partage ses vêtements. Vêtements quatre parts et tunique, parce que, voilà, il est exposé dans sa nudité, on pourrait dire, n'est-ce pas, menée par la violence, en position, on pourrait dire, d'humiliation totale. Alors, donc, vous aurez entendu, je préfère l'interprétation qui va dans le sens de l'unité, mais en respectant le paradoxe d'une unité favorisée, non pas par les croyants qui sont pas nombreux, hein, à la croix, donc, mais par les non-croyants, par les païens, qui apparemment ne devraient rien avoir à faire avec cet événement. Précisément, ils ont beaucoup à faire là-dedans. Ils sont concernés autant que les juifs. Voilà, ça rejoint l'inscription du titre sur la croix, n'est-ce pas, écrit en latin, en hébreu et en grec. Hein? Donc, voilà. Dimension universaliste du sens de la mort de Jésus en croix. Quant alors à la tunique dans son rapport avec le sacerdoce. Ce que je tiens aussi à souligner, c'est que ce n'est vraisemblablement pas une allusion à la tunique du grand prêtre, mais il est bien vrai que dans la garde-robe des prêtres dans l'Ancien Testament, que ce soit en hébreu ou en grec, il y a cette tunique. Et donc, ça rejoint un point que j'ai régulièrement souligné. Si ce n'est pas la dimension du grand prêtre qui est soulignée pour, en quelque sorte, encore définir l'identité de Jésus, nu sur la croix, il y a cependant une dimension sacerdotale, à mon humble avis, incontestable. Il est le Fils, et à ce titre, il sert de médiateur, d'unique médiateur, comme dirait Sesboué, n'est-ce pas ? Enfin, il n'est pas le premier à l'avoir dit, c'est les pères de l'Église qui l'ont dit avant lui, et toute la foi chrétienne aussi. Il est notre unique médiateur. Alors, dans quel état ? Il faut aussi réaliser ça, n'est-ce pas ? Médiation sacerdotale du Fils, qui s'accomplit à la croix, dans la pauvreté, le dénuement, la nudité totale. Alors, ils dirent donc les uns en direction des autres, ne la divisons pas, mais désignons par le sort, ne la divisons pas, voilà, hein, c'est le verbe schizo, hein, du schisme, hein, ne la divisons pas, gardons-la une, qui rejoint évidemment aussi la prière pour l'un dans laquelle nous avons baigné en travaillant Jean 17, et désignons-la par le sort, hein, c'est-à-dire, voilà, ils jetèrent un dé, hein, donc on tire au sort par un jeu de dé, à qui elle sera, afin que l'Écriture soit accomplie, celle qui dit: ils se répartirent mes vêtements pour eux-mêmes. C'est le même terme qui est employé. Ils prirent ses vêtements. Et sur ma vêture, il m'a tismon, même champ sémantique, ils jetèrent un dé. Jean est le seul à citer explicitement le psaume 22, le psaume du juste souffrant, au verset 19. Les autres évangélistes y font allusion, mais de façon implicite. Jean le cite explicitement parce que, justement, l'argument de l'accomplissement de l'Écriture est décisif pour lui. Il y a la formule d'introduction de l'accomplissement et il y a la citation explicite, ce qui donne évidemment beaucoup de poids à cette argumentation scripturaire. Les soldats, donc, d'une part, ces choses, ils les firent. Et donc, vous avez ici le men de en grec, hein, men d'une part, de d'autre part, pour bien montrer le rapport intrinsèque qu'il y a entre tous ces participants de la scène. C'était tenu debout d'autre part, auprès de la croix de Jésus, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, celle de Clopas, et Marie la Magdaléenne. Jésus, donc, ayant vu la mère et le disciple qui s'était tenu auprès, debout, qu'il aimait, dit à la mère, troisième fois que le terme est employé, « Femme, vois ton fils ». Ensuite, il dit aux disciples « Vois ta mère », quatrième fois que le terme est employé, et à partir de cette heure-là, il l'a pris, le disciple, dans ses choses propres. Alors, évidemment, on pourrait passer tout un cours à travailler ces versets, hein. Mais je veux dire un cours de 22 heures, hein. Parce que, voilà, c'est biblique, n'est-ce pas ? Plus l'événement est important, moins on utilise de moyens pour le dire. Il y a une économie littéraire, une économie de moyens pour exprimer le mystère qui augmente à mesure que le mystère augmente lui-même. C'est très remarquable. Précisément parce qu'il s'agit du mystère et qu'on balbutie là-devant, n'est-ce pas ? Ça dépasse le langage. Hein ? On n'a pas les mots suffisants pour l'exprimer. Hein ? C'est quelque chose qui excède le langage. C'est précisément parce qu'il s'agit de la parole incarnée, faite chair, qui meurt. Hein ? Donc, voilà. Alors, tout est important auprès de la croix de Jésus, Ce qui nous vient souvent, sans doute, à la mémoire, ce sont les Pietà, hein, mais qui sont finalement d'époque relativement récente, hein, souvent d'ailleurs marquée d'un certain dolorisme. Auprès de la croix, ça ne veut pas dire au pied de la croix, précisément parce que la législation tant juive que romaine prévient l'émotivité, en particulier des membres féminins de la famille des condamnés. Donc, auprès de la croix suppose une certaine distance. Mais avec la même idée que les participants à la scène entrent comme part intégrante de ce qui est en train de se réaliser. Et alors, voilà, c'est le deuxième et unique autre passage marial dans le quatrième évangile, après la noce à Cana de la Galilée, que nous avions étudié au début, n'est-ce pas, en 2:1-12, sa mère, donc nous avons vu que dans ces trois versets, elle est nommée de cette manière quatre fois, sans que son nom soit exprimé, ce qui est étonnant. Et ce qui devrait en effet susciter notre surprise, n'est-ce pas ? Puisque le nom, c'est la personne, dans l'Ancien Testament en particulier. Révéler le nom de Dieu, c'est révéler quelque chose de son être. Hein, révélation du nom de Dieu à Moïse au buisson ardent, c'est ça. Le nom, c'est la personne. D'où alors le nom qui n'en est pas un, le « moi, je suis qui je suis ». Hein, un nom qui ouvre précisément sur le respect du mystère de Dieu, sa mère. Alors, en effet, pourquoi son nom, hein? Pas plus que celui d'ailleurs du disciple bien-aimé qui arrive au verset suivant. Pourquoi leurs noms ne sont-ils pas mentionnés? Eh bien, la question va recevoir des éléments de réponse. Je ne dis pas que j'y réponds, mais d'abord, sa mère veut dire que ce sur quoi on attire l'attention, c'est sur la dimension de la maternité dans cette femme. Hein? La sœur de sa mère, elle est nommée Marie. Attention, je suis en train de me gourer. La sœur de sa mère, elle n'est pas nommée. Marie, celle de Clopas, est nommée. On ne voit pas deux sœurs portant exactement le même nom. Même si on ne connaît pas le nom de Marie, on sait par ailleurs qu'elle s'appelle Marie, la mère de Jésus, n'est-ce pas ? Mais donc, la sœur de sa mère, on détaille la dimension de fraternité, de sororité, hein, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà. Et alors, Marie, celle de Clopas, c'est la femme, l'épouse, donc la dimension conjugale. Et enfin, Marie la Magdaléenne, ça c'est une constante de toutes les traditions évangéliques, n'est-ce pas ? Elle fait le joint entre la mort et la résurrection. C'est la seule qui se trouve des deux côtés, dans toutes les traditions. Mais ici, elle est avec les trois autres. Et donc, ce que on peut dire d'ores et déjà, n'est-ce pas ? C'est qu'il y a là comme une icône de l'Église, dans sa position féminine, hein, d'épouse de l'époux, rappelons-nous, toute la symbolique mise en place à Cana, justement. Marie de Magdala, elle n'est pas d'abord, enfin, on n'en a jamais parlé dans le quatrième évangile comme étant une pécheresse. Hein. C'est celle qui aime, qui est là, simplement parce que Jésus est Jésus, et elle est Marie de Magdala, enfin, voilà. C'est la femme dans sa dimension d'aimante. Et c'est le verset 26 alors qui est le plus fulgurant, n'est-ce pas ? Parce que Jésus ayant vu, donc il y a quelque chose de l'ordre d'une vision qui est souligné, n'est-ce pas ? Il a vu, le verbe de la vision de foi. La mère et le disciple, on apprend qu'il est là aussi, qui s'était tenu auprès, debout, qu'il aimait, dit à la mère, « Femme, vois ton fils. » Et donc, le verbe « voir », de nouveau, est utilisé, non plus simplement comme, comme un voici, n'est-ce pas? Ça, ce serait idou, mais c'est l'impératif du verbe voir. Il fait entrer la femme, la mère, à laquelle il s'adresse, dans sa propre vision, ayant vu, voit. Et ensuite, il dit aux disciples, voit, même phénomène, ta mère. Alors, limitons-nous à cela. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit, comme je viens de le rappeler d'ailleurs, de la parole du Verbe fait chair mourant sur la croix. La parole de création, la parole d'origine. Donc, il y a un sens, on pourrait dire, créationnel à ces deux paroles qui rappellent étonnamment à quel point dans les deux traditions de Genèse 1 et de Genèse 2, masculin et féminin, Ish et Isha, sont indissociables. À la création, il y a toujours les deux. À l'image comme la ressemblance de Dieu en Genèse 1, 26, 27, Ish et Isha différenciés, hommes et femmes, à partir de l'Adam indifférencié de Genèse 2. Donc, les deux traditions sont rappelées et les deux traditions sont honorées dans le sens où il s'agit de comprendre à quel point Jésus mourant sur la croix révèle, on pourrait même dire crée, la vocation spécifique de l'homme et de la femme. Il s'adresse à la mère dans le même terme qu'il avait utilisé à Cana, femme, terme de l'épouse, vois ton fils. Et donc, ce qui est remarquable, il y a un entrelac, je le signale rapidement en note, n'est-ce pas ? Dans la parole du Verbe fait chair en croix à la femme, on apprend la vocation de l'homme, qui est une vocation d'être fils, et réciproquement, dans la parole à l'homme, on apprend quelle est la vocation de la femme d'être mère. Et comme je le disais il y a un instant, c'est cela, me semble-t-il, la clé de l'énigme du nom, de la non-nomination de la mère et du disciple que Jésus aimait, n'est-ce pas ? Parce que, à travers la mère et ce fils, dans leur nouvelle relation, il y a bien plus que deux personnages historiques déterminés. Il y a la révélation de ce que sont hommes et femmes de la création à la fin des temps qui s'accomplit dans cette mort du Christ. Et donc nous avons tous à nous redécouvrir à la lecture de ce texte comme femme appelée d'une manière ou d'une autre, et il y a différentes manières d'incarner la maternité, mais appelée à être mère, à enfanter, et l'homme, on aurait pu s'attendre à une définition paternelle. Eh bien non, il faut d'abord être fils. Voilà. Jésus, le Verbe, se révèle le Fils. Un seul de la Trinité s'est incarné, c'est pas le Père, c'est le Fils. C'est un point culminant de toute l'Écriture sainte, pour le coup. Elle a été déjà convoquée à propos des vêtements. Elle est maintenant implicitement convoquée dans l'art extraordinaire de dire en quelques mots une réalité à la fois de plénitude, mais aussi d'excès. On n'a pas les mots pour le dire. Voilà, on ne peut qu'essayer d'intérioriser cela. C'est pourquoi, justement, le texte se prête évidemment aussi à la contemplation, à la méditation, à la prière. Et pourquoi encore les autres déterminations ? À partir de cette heure-là, ben on l'attendait l'heure, elle revient. Elle est déjà venue. Mais maintenant, à partir de cette heure-là, c'est évidemment l'heure de la fin, mais qui est aussi l'heure du commencement, il l'a pris, et voilà le même verbe qui était utilisé pour les soldats qui prirent ses vêtements. Et le verbe ici a vraisemblablement le sens de prendre dans une disposition de foi, confiance. Il l'a pris, le disciple, dans ses choses propres. Eista idia, et voilà donc dernière utilisation de cette expression qui arrivait dès le centre du prologue, il est venu dans ses choses propres et ses gens propres ne l'ont pas accueilli. Ici, ces choses propres au neutre pluriel renvoient vraisemblablement à la vie de foi du disciple bien-aimé. Vous serez tous dispersés dans vos choses propres, disait Jésus aux disciples à la fin du discours d'adieu en 16. Voilà, je vais vous dire exactement le verset. 16. N'est-ce pas ? Voici, vient une heure, et elle est venue, afin que vous soyez dispersés, chacun dans ses choses propres. Là, c'est l'incrédulité. Et moi seul, vous me laisserez, je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Ici, dans ses choses propres, c'est la foi du disciple qui est évoquée, mais une foi qui a nécessairement une dimension collective, communautaire. Dans ses choses propres, ce n'est pas simplement sa propre vie de foi. Je dis toujours, on ne croit jamais seul. On croit dans un peuple, dans une communauté de foi. Donc, deux choses capitales sont ici rappelées. Impossible de croire en Jésus sans prendre Marie pour mère. Donc, ce n'est pas du tout une question de piété mariale secondaire, n'est-ce pas ? C'est une question de cohérence de la logique dans la foi. Hein ? On ne peut pas être engendré de Dieu sans être enfanté par une mère. Donc, voilà. Alors, justement, on me dit souvent, oui, alors dans le dialogue avec les protestants, je suis persuadé qu'en parlant avec Madame Dominique Hernandez, on serait bien d'accord là-dessus, n'est-ce pas ? C'est pas pour rien qu'elle est maman. Mais donc voilà. Et alors, pourquoi cette dimension aussi communautaire, sur laquelle j'insiste, parce que c'est un neutre pluriel, parce que la foi crée le lien social. C'est même le ressort fondamental du lien social, n'est-ce pas ? Alors, voyez, par le fait même, je ne pense pas que ces choses propres, ce soit d'abord une maison en dur ou en n'importe quel matériau qui serait à Éphèse ou je ne sais où. Non, je ne pense pas qu'il s'agit d'abord pour le disciple bien-aimé de prendre la mère de Jésus dans sa maison. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé après, n'est-ce pas ? Des différentes traditions, parfois un peu contradictoires, de la mort de Marie à Jérusalem ou à Éphèse. Donc, voilà, quand on va à Éphèse, on dit, voilà, c'est là la maison de Jean où il a accueilli. Bon, très bien, il y a quelque chose de légendaire là-dedans, à quoi il faut raison garder, très bien. Le point capital n'est pas celui-là. Le point capital, c'est qu'au moment de sa mort, Jésus, dans il y a encore deux autres paroles qui vont venir, hein, mais la parole à la mère et la parole au fils ont une dimension, disons, de foi tout à fait remarquable à la lumière de la création et de la fin des temps, puisque nous sommes à l'heure où tout s'accomplit. L'achèvement de tout et le parachèvement de l'écriture. Alors, déjà été un peu trop long pour les versets précédents. Voilà. Centrons-nous sur l'essentiel ici. Après ceci, donc première scène, donc, pour bien montrer un enchaînement. Si c'était après ces choses, ce serait plus vague. Non, non. Il y a un premier temps, et maintenant il y a un second temps, et c'est le temps central, c'est le moment où la mort est décrite. Alors, écoutez à l'intonation que j'adopte les deux lectures possibles. C'est référé en note. Sachant Jésus, ah, ça c'est aussi un lien avec le début du chapitre 13, n'est-ce pas ? La conscience, on pourrait dire la conscience messianique, filiale de Jésus. Sachant Jésus que déjà on retrouve toutes choses ont été achevées afin que soit parachevée l'écriture, il dit « j'ai soif ». Donc, vous aurez entendu, d'après la ponctuation adoptée ici, que je fais dépendre toutes choses ont été... la proposition de but final afin que, je la fais dépendre de ce qui précède. Sachant, Jésus, que déjà toutes choses ont été achevées afin que soit parachevée l'écriture. Donc, l'achèvement de tout, et c'est le verbe téléo qui est employé, est scellé par le parachèvement de l'écriture, et c'est le verbe téléo qui est utilisé. Deux verbes pour dire l'achèvement de l'amour dont il était question au début du chapitre 13. « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima, eis telos. » Dominique Hernandez nous avait dit, n'est-ce pas, la polyvalence, la polysémie de ce terme. Ici, le substantif est comme répercuté par deux verbes distincts, le verbe teleio ayant une petite nuance de perfection supplémentaire par rapport à teleo. Mais l'idée est claire. Cette mort est l'amour achevé. Autre lecture, autre intonation. Après ceci, sachant Jésus que déjà toutes choses ont été achevées, virgule, afin que soit parachevée l'écriture, il dit « j'ai soif ». Et à ce moment-là, la proposition de but « afin que » en « ina » va porter sur la suite, non pas sur ce qui précède. La difficulté, c'est que, on dit toujours, n'est-ce pas, citation implicite du psaume 69, 22, « Dans ma soif, il m'abreuvèrent de vinaigre ». Oui, mais dans le psaume 22, il y a 69, et dans aucun autre psaume, il n'y a cette expression « j'ai soif »,« dipso »,« sitio » en latin. Donc, ce n'est pas une citation d'écriture, à mon humble avis, n'est-ce pas ? C'est la parole du mourant. Quand on accompagne des mourants ou des malades, c'est remarquable. Je me rappelle toujours ma maman sortant de sa dernière anesthésie pour son cancer, n'est-ce pas ? Elle ouvre les yeux et elle dit « j'ai soif ». Impressionnant. Je n'oublierai jamais ça. Donc, et alors, disons... C'est pas pour écarter l'importance de l'écriture, bien au contraire. C'est pour souligner, au moment où se parachève l'écriture, dans l'achèvement d'amour de cette vie, le caractère encore absolument unique et singulier de ce que dit Jésus et ce que dit chaque personne à l'instant de sa mort. C'est-à-dire... Dans la mort se joue toute la vie, se joue l'existence. Alors, j'ai soif. Évidemment, la question se pose. D'abord, ça fait aussi un rapport extraordinaire avec, par exemple, la rencontre avec la Samaritaine, n'est-ce pas ? Donne-moi à boire. Hein ? Alors, il a de nouveau soif à la croix. Hein ? Et alors, Thérèse de l'Enfant Jésus disait, de quoi a-t-il soif ? Il a soif des âmes. Entendons cela, mais que dit le texte exactement ? Alors, d'abord, il suspend, suspense. Un vase gisait de vinaigre plein, une éponge donc pleine du vinaigre, autour d'un hysope l'ayant posé, ils l'ont porté auprès de sa bouche. Alors, que ce soit les soldats ou que ce soit les partenaires plus liée à l'environnement immédiat des quatre femmes et du disciple bien-aimé qui pose ce geste, on ne saura jamais. C'est un geste positif, c'est un geste d'alliance. Et donc, dans les synoptiques, c'est encore plus insistant, n'est-ce pas? C'est un du vin mêlé de myrrhe. Ici, non, c'est du vinaigre, c'est de la piquette, n'est-ce pas? C'est un vin de... Mais c'est un geste de compassion. Et dans les synoptiques, parce que, n'est-ce pas, voilà, c'est une sorte de d'analgésique, n'est-ce pas, contre la souffrance, non, Jésus n'en prend pas. Ici, il en prend. Donc, deux versions bien différentes de cette mort, n'est-ce pas? Et même, il le prend, ce vinaigre, ce qui lui permet d'aller, justement, jusqu'au bout, jusqu'à achèvement dans ses paroles. Il dit en paroles ce que le récit a exprimé dans une description, sachant que déjà toutes choses ont été achevées. Jésus dit, ça a été achevé. Alors, là encore, j'ai aussi consulté la nouvelle traduction liturgique, on fait dire à Jésus... Tout a été achevé. Ben, il n'y a pas le tout. Et d'ailleurs, là, il y a une note qui dit que c'est un ajout. Hein. Mais l'important, ce n'est pas le tout, c'est que ce soit achevé. Et c'est que Jésus reprenne en parole ce qui a été décrit par le rédacteur dans le récit. Et donc, il a soif de l'achèvement. Et ayant incliné la tête, il livra l'esprit... Il a soif de livrer l'esprit, hein, si on épouse le texte dans ses détails. Maintenant, revenons quand même sur ce verset, on pourrait dire, centraux central. Le cœur du texte, c'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Le verset 29, personnellement, je pense, enfin, il y a plusieurs, il n'y a pas 36 textes dans l'Ancien Testament qui parlent de vinaigre, oxos. Par contre, la législation de la Pâque juive utilise souvent le terme oxos parce que c'est un des ingrédients fondamentaux du repas de Pâque. Hein. Mais le vinaigre, vous avez les références là en bas de la page 164, n'est-ce pas, nombre 6-3, ça c'est... La réglementation dans le livre des Nombres à propos du nazir qui ne doit pas boire de boisson fermentée. Hein. Le psaume 69-22, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure. Dans ma soif, ils m'abreuvèrent de vinaigre. Le proverbe 29-20, chanter une chanson à un cœur affligé, c'est mettre du vinaigre sur du nitre. C'est vous mettre en ébullition. Non, bon, ça n'a pas un lien très étroit avec nous. Par contre, Ruth 2, 14, ah oui, oui, oui. Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange de ce pain et trempe ta bouchée. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est exactement la même formulation qu'on avait pour la bouchée trempée de Jésus à Judas au chapitre 13. Il n'était pas question de vinaigre. On le voit arriver ici. Alors, qu'on adopte, enfin moi, ça me plaît beaucoup. Ça me fait jubiler. Ça, voilà, il faut toujours favoriser une interprétation qui favorise la consolation, n'est-ce pas? Mais donc, que l'on admette ou non ce rapprochement, le point fondamental, c'est que, de nouveau, n'est-ce pas, les participants à la scène aident Jésus à mourir en révélant l'amour absolu. Et donc, en fait, il n'est pas seul à mourir. Hein. Il est aidé dans cette mort par ceux qu'il aime. Et si c'est les soldats, eh bien, il l'aime aussi. Et alors voilà, n'est-ce pas, ça, il a fallu un médecin jadis, prêtre maintenant du diocèse de Paris, n'est-ce pas, pour attirer mon attention. Ayant incliné la tête, il livra l'esprit, c'est exactement le scénario inverse de la mort. On livre le dernier souffle et ensuite on incline la tête. Et alors, évidemment, il y a aussi un jeu de mots. Il livra l'esprit. C'est le verbe de la livraison, de la trahison. Donc, à la trahison, il répond par le don suprême de sa vie, l'esprit. Il livre l'esprit, ayant été lui-même livré. Voilà, l'accomplissement, le parachèvement. L'achèvement et le parachèvement de l'écriture dans cette mort. Eh bien, il est 6 heures, nous faisons une pause maintenant. Et on verra jusqu'où on pourra aller tout à l'heure. Merci. Donc, nous sommes en présence de textes d'une ampleur infinie, n'est-ce pas? Donc, des questions qui me sont posées, qui pourraient encore m'être posées ultérieurement, laissent entendre que l'approfondissement pourrait évidemment être poursuivi, mais nous avançons quand même, et en enregistrant une nouvelle surprise, n'est-ce pas? Et ça, c'est typique aussi de la littérature johannique, peut-être plus encore de l'Évangile que des autres éléments constitutifs du corpus johannique. Quand tout semble fini, tout rebondit. Hein? Alors, vous voyez, on pourrait encore évidemment s'attarder. Jésus meurt en livrant l'esprit. Hein? Donc, personnellement... je crois qu'il y a là quelque chose aussi qui va dans le sens de ce que, dès sa mort, le Fils retrouve le Père et il livre l'Esprit, donc parce qu'il a retrouvé le Père. Hein. Et alors, à ce moment-là, la scène a évidemment un caractère trinitaire très fort. Et d'autre part, il y a là quand même aussi ce qui est présent dans la dogmatique, n'est-ce pas? Dans l'acte de mourir, le Fils ressuscite. À la manière même dont il meurt, il est vivant. La mort n'est pas est une fin, mais une fin d'amour. Ce n'est pas un abîme. Et cependant, il faut respecter l'abîme de la mort. Nous le disons aussi dans notre foi, n'est-ce pas? C'est dans l'acte de mourir que nous participons à la résurrection du Christ. Mais nous y participerons totalement et ensemble à la fin des temps. Alors, il faudra 3 jours, en effet, nous sommes le vendredi, hein, pour que Jésus se manifeste comme victorieux de la mort et du péché. Mais ça, c'est parce que nous sommes dans le temps et dans l'histoire. Hein? Et il faudra en effet aussi le mémorial ouvert ou le tombeau vide, comme on dit, pour attester que justement il est ressuscité. Mais il est ressuscité dans l'acte de mourir comme il meurt. Voilà, je crois que ça, c'est très important. Et ce n'est pas fini, ça continue. Il y a un rebondissement, et pas n'importe lequel. Nous avons ensuite ce qu'on a pris l'habitude dans la tradition catholique, n'est-ce pas, de prendre comme l'évangile du cœur de Jésus. Ce n'est pas son cœur qui est transpercé, c'est son côté, sa plèvre, nous allons voir cela. Et donc, avec 31-42, nous avons le troisième pan du triptyque qui correspond au premier. Les Juifs, donc, puisque c'était préparation, la préparation de la Pâque, la parachève, paraskeuē, en grec, afin que ne demeurent pas sur la croix les corps dans le sabbat, parce qu'ils sont considérés comme maudits, hein, la loi. C'est dit en toutes lettres par Paul dans l'Épître aux Galates, n'est-ce pas? Il est mort comme un maudit aux yeux de la loi. Donc, il était grand ce jour de ce sabbat de Pâques. Ils demandèrent à Pilate que soient rompues leurs jambes et qu'ils soient enlevés. Ils vinrent donc les soldats, on les retrouve, donc vraiment, c'est parallèle. Et du premier, d'une part, ils rompirent les jambes, et de l'autre, qui fut crucifié avec lui. Sur Jésus, d'autre part, on retrouve le mendé qu'on avait avec les femmes et les soldats, étant venu, comme ils le virent déjà mort, ils ne rompirent pas ses jambes, mais un des soldats d'une lance, Longuet, ce qui a donné son nom à ce monsieur, Longin, c'est tout à fait abusif, mais enfin c'est un peu, voilà, c'est la tradition. Un des soldats d'une lance, sa plèvre, il la perça et sortit aussitôt, sang et eau, verbe au singulier, sujet double, sang et eau. Et alors évidemment, très tôt, on s'est interrogé sur l'ordre de sang et eau. Si le sang renvoie à l'Eucharistie, l'eau renvoie au baptême, pour en général dans la lecture patristique, mais pas trop vite. Voilà. En tout cas, disons-le tout de suite, ce n'est pas le cœur qui est transpercé, c'est la plèvre. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est ce terme-là qui est utilisé en grec, pleura, pour la fameuse côte d'Adam, dont le Seigneur construit une femme pour l'homme en Genèse 2. Voilà. Donc, la lecture patristique, enfin, et la lecture spirituelle, théologique au sens fort, fait évidemment un rapprochement entre le sommeil d'Adam et la mort effective de Jésus, qui donne naissance à l'Église. Mais une fois mort, c'est ça qui est quand même impressionnant. Et le sang est au singulier, donc ce n'est pas un sang qui crie vengeance au ciel, comme le sang d'Abel en Genèse 4, mais c'est un sang eucharistique, donc dans la ligne de l'amour achevé et le parachèvement de l'Écriture mentionné précédemment. Le sang de l'Alliance, Exode 24:8, seul endroit où l'expression soit utilisée, n'est-ce pas ? Le sang de l'Alliance. Et l'eau de la Nouvelle Alliance, pourrait-on dire ? Puisque Ézéchiel 37:26 dit, n'est-ce pas, que la nouvelle alliance consiste précisément en cette eau lustrale qui permet le pardon des péchés. Relecture d'Ézéchiel pour l'oracle de la nouvelle alliance en Jérémie 31:31-34. Donc de nouveau, extrême économie des moyens pour suggérer un message immense et inépuisable. Alors le verset 35 est évidemment très important aussi, en me posant encore la question, qui est ce fameux disciple bien-aimé, qui a écrit le quatrième évangile? Moi je pense quand même qu'il faut, des études récentes et de gens tout à fait compétents que j'ai encore retrouvés comme des représentants de l'exégèse historique à Rome au symposium en octobre, n'est-ce pas, disent que le quatrième évangile suppose un témoin oculaire. C'est incontournable, ils n'ont pas inventé ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, qui est exactement celui qui a vu, qui est le témoin? Mais de nouveau, n'est-ce pas, si on ne vous dit pas exactement de qui il s'agit, c'est pour vous faire entrer tous et toutes, autant que nous sommes, dans ce témoignage. Parce que il n'est pas réductible non plus à un témoin. Mais cependant, on ne peut pas non plus faire l'économie de ce témoin. Ce serait contraire à la vérité du texte. Celui qui a vu a témoigné, il est véritable son témoignage, et celui-là sait qu'il dit des choses vraies, afin que vous aussi vous croyez. Voilà, hein. Et ça, c'est l'importance du témoignage de Jean depuis le début du prologue, enfin, depuis le prologue hymnique et le prologue narratif. Hein. On a besoin d'un témoin pour croire. Hein. Et nous continuons à croire sur la foi des témoins qui nous précèdent. Car devint ces choses, afin que l'Écriture soit accomplie, on retrouve donc au cœur de ce troisième développement, la formule de l'accomplissement de l'Écriture assortie de deux citations explicites. La première étant une citation composite, comme je le disais, c'est un amalgame hein, des trois textes, des quatre textes, enfin non, trois textes là, de la législation sur l'agneau pascal en Exode 12, 46 et Nombre 9, 12. Ça, c'est des textes assez semblables. Mais alors, le psaume 34, 20, qui reprend cette législation dans un texte de louange qui célèbre justement ce qui est survenu dans le juste souffrant. C'est, voilà. Un os ne lui sera pas brisé. L'agneau de Pâques doit être intact hein, du point de vue de la préparation du repas. Et alors, évidemment, toute cette symbolique pascale qui surgit depuis la première désignation de Jésus par Jean comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde se retrouve au moment crucial de la mort ici. Et de nouveau, une autre écriture dit, citation de Zacharie 12, 10, faudrait chaque fois aussi replacer ce texte dans son contexte, très intéressant, ce chapitre 12 de Zacharie. Hein. « Ils verront dans celui qu'ils transpercèrent. » Alors, jusqu'à il y a peu de temps, j'ai amené ici la recension d'un ouvrage remarquable, n'est-ce pas, le quatrième évangile et les Écritures, pour éclairer la forme et le sens de la citation de Jean 19, 37, Zacharie 12, 10. Cette dernière monographie m'a fait bouger dans mon interprétation parce que je pensais jusqu'à présent que c'était le propre de Jean d'utiliser le verbe « voir »,« orao » pour cette citation en grec de Zacharie 12, 10 qui n'utilise pas dans la Septante le verbe « orao », mais blépein, blépo, regardez, hein, comme on traduit souvent. Hein, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Alors, je traduis, ils verront, c'est-à-dire les yeux de la foi s'ouvriront, ils, hein, nos yeux à tous. Hein, parce que nous sommes tous impliqués dans cet événement de la du côté transpercé, n'est-ce pas, de la plèvre transpercée. Donc, nos yeux de foi s'ouvrent grâce à l'objet même contemplé, c'est-à-dire la plèvre transpercée. Alors, l'étude, là, n'est-ce pas, très, très, très poussée, et en même temps très, très belle, enfin, très, très remarquable, un certain Randolph Binham montre que la version johannique, que je pensais johannique, n'est-ce pas, avec le verbe « voir » est déjà attestée à Qumran. Donc, à Qumran, nous avons une citation, une attestation de la tradition de Zacharie 12-10, pratiquement dans les mêmes termes que la citation qui en est faite ici. Et donc, ce n'est pas un travail du quatrième évangéliste sur Zacharie 12-10 qui obtient cela, c'est déjà une lecture attestée à Qumran. Ça veut dire que, personnellement, je n'ai jamais été tellement tenté par la Qumranologie, mais là, pour tout ce qui est de l'ordre de l'étude des textes, hein, ça c'est remarquable. Donc c'est bien le chaînon manquant entre les traditions juives, hein, la Septante, et le Nouveau Testament. Et donc c'est un bel exemple qui invite à ne pas faire porter la nouveauté en question par le Nouveau Testament, par l'Évangile de Jean, mais déjà par la lecture qu'on en faisait à Qumran, indépendamment du mystère du Christ, bien entendu. Voilà. Après ces choses, alors voilà. Ce qui est tout à fait de nouveau étonnant, c'est que le rite de l'ensevelissement soit confié à deux hommes ici, n'est-ce pas ? Alors que dans toutes les autres traditions, on voit ça, n'est-ce pas, avec les myrophores, comme on dit, hein, pour les femmes qui se rendent au tombeau le matin de Pâques, etc. Donc, ce sont deux hommes et Joseph d'Arimathie, disciple de Jésus, et Nicodème, une troisième fois qu'il est mentionné, Joseph vient demander et Nicodème le suit. Donc, voilà, s'étant caché à cause de la crainte des Juifs, on retrouve cet argument des crypto-chrétiens, hein, donc, qu'on a retrouvé dès l'aveugle-né, n'est-ce pas, ceux qui sont menacés d'être mis au ban de la synagogue, voilà. Mais enfin, c'est lui qui prend la responsabilité de demander à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Il le permit Pilate, il vint donc et il enleva son corps. Vint aussi Nicodème, celui qui vint auprès de lui de nuit d'abord, Jean 3, portant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres, et le père Mola, qui est toujours intéressant à consulter pour cela, vous dit, n'est-ce pas, dans une petite note, et il ne dit que cela, 32 kg 700. Hein? Donc, alors, des études récentes montrent que ce n'est rien par rapport au kilo d'embaumement prévu pour l'ensevelissement des pharaons en Égypte, par exemple. Mais enfin, le détail va dans le sens du récit, n'est-ce pas ? On ménage à Jésus une sépulture royale. Voilà. Il est mort avec le titre sur la croix, le roi des Juifs. Eh bien, des Juifs lui assurent une sépulture de roi. Ils prirent donc le corps de Jésus. Vous voyez, ça c'est toujours intéressant de voir trois fois que le terme revient au verset 38, au verset 39, maintenant au verset 40, deux fois dans le verset 38, une fois dans le verset 40, et ils l'enveloppèrent de linge avec les aromates, comme un usage il y a pour les Juifs d'ensevelir, donc il n'est pas justement enseveli à l'égyptienne, je viens d'évoquer les pharaons, n'est-ce pas ? Voilà. Il n'est pas momifié. Hein ? Et cette description attend des compléments d'information au chapitre 20 qui suit. Il y avait dans le lieu où il fut crucifié un jardin. On le retrouve. Hein ? Et c'est ce qui fait que pour beaucoup, il faut... Voilà. Maintenir ensemble d'abord et avant tout 18 et 19, qui s'ouvrent sur un jardin, qui se terminent sur un jardin, mais c'est un autre jardin, c'est le jardin de l'ensevelissement. Dans le jardin, un tombeau nouveau, kainos, hein, traduit souvent neuf, mais c'est la nouveauté qui est soulignée, dans lequel jamais personne n'avait été posé, là donc, à cause de la préparation des Juifs, parce que près il était le tombeau, ils posèrent Jésus. Jésus, dernier mot de ce récit de la passion et de la mort de Jésus. Il n'y a qu'un seul texte dans Marc qui parle du cadavre de Jésus. On en parle toujours comme de son corps, hein, comme en attente de ce qui va suivre. Et la préparation, vous voyez, fait bien le joint avec le verset 31. Donc, nous sommes à la fin du triptyque. Nous passons au chapitre 20, mais en respectant, bien entendu, le fait que il y a quelque chose d'indépassable dans la mort, en particulier dans celle qui nous a été racontée. Et il faut bien remarquer l'adresse avec laquelle les auteurs du Nouveau Testament, parce qu'ils recourent tous aux mêmes expressions, pour nous faire respecter le fait que, après la mort, et en particulier cette mort, la vie ne continue pas comme si rien ne s'était passé. Et donc, ce n'est pas parce que le chapitre 20 enchaîne avec le chapitre 19 que l'on peut enjamber cet abîme de la mort. Hein ? Quiconque est passé par un deuil d'un de ses proches se rend bien compte que jamais personne n'est revenu de la mort. Nous le disons du Christ et du Christ seul, et de ceux qui participent à la résurrection du Christ. Donc ça fait partie quand même du monde judéo-chrétien qui n'est pas enclin à accorder quelque crédit que ce soit à une réincarnation, par exemple. Ça, c'est... Alors comment s'y prennent-ils pour nous faire respecter à la fois le mystère de la mort et de l'histoire qui continue, tout en étant marqué par cette mort? Eh bien, il n'y a pas 36 moyens possibles, hein. Il n'y a que le langage, les expressions du langage à nous permettre de rendre compte de cette réalité. Et c'est ce qui fait que tous les textes recourent à cette expression, voilà, dont on a pris en quelque sorte l'habitude de traduire comme le premier jour de la semaine. Alors en fait, c'est une expression insolite. D'abord, le jour n'est pas utilisé, je le mets entre parenthèses. Ensuite, l'adjectif numéral qui est utilisé, c'est pas l'adjectif numéral ordinal, comme on l'a appris dans la grammaire, n'est-ce pas ? C'est l'adjectif numéral cardinal, un, et pas premier. Et en fait, ensuite, un de la semaine, te mia ton sabbaton, renvoie d'abord au pluriel de sabbat, hein ? Le un des sabbats. Et ce n'est que dans un second temps, que les sabbats peuvent devenir des semaines, et puis au singulier, une semaine. Voilà. Alors, je pense qu'il y a tout intérêt à respecter cette expression tout à fait étrange. Quand on dit le premier jour de la semaine, on sort de l'étrangeté. Non. Alors, pourquoi ? Ah ben d'abord parce que cette mort a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire, malgré tout, on vous dit que dans le calendrier juif, on continue à compter le temps comme si rien ne s'était passé. Après le samedi, le sabbat de Pâques, la semaine reprend. Et nous sommes en 5773 de l'ère juive, hein. Voilà. Dans le calendrier juif, cet événement de la mort de Jésus et de sa résurrection n'a aucune portée. Le temps continue comme si rien ne s'était passé. Et cependant, nous sommes aussi maintenant dans un autre calendrier. La suite du chapitre 20 va nous l'apprendre, n'est-ce pas, à propos de Thomas. Il n'était pas avec eux quand vint Jésus. Et donc, 8 jours après, on entre dans un nouveau cycle de semaine, n'est-ce pas? Le jour 1 de la semaine devient maintenant le dimanche chrétien. Hein? Le jour de la résurrection, précisément. Le jour du Seigneur. Dies Dominica. Hein? Le jour seigneurial. Hein? C'est la résurrection qui fait la différence entre les siècles avant et après le Christ. Ce n'est pas l'incarnation. Hein? Ça n'explique toujours pas pourquoi le 1. D'autant plus que dans le calendrier juif, on ne dit pas le 1, on dit Yom Rishon, le jour premier. À mon avis, il n'y a qu'une explication possible, mais dans tout ce que je consulte encore comme nouveaux commentaires, etc., on passe là-dessus comme si, voilà, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'une explication, c'est de voir que le jour 1 de la Genèse, en Genèse 1, 5, recourt exactement à la même expression. Yom Erad, en hébreu. Emera Mia, jour 1, et non pas premier jour, deuxième jour, troisième jour. Non, non, c'est le jour fondateur. Il inaugure la semaine et il n'est pas simplement le premier de la série des autres. Et c'est d'ailleurs dans la Genèse le jour de la séparation entre la lumière et les ténèbres. La symbolique joannique par excellence. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle va avoir, elle va jouer un rôle important ici. Voilà pour l'expression temporelle, le jour 1 de la semaine. Le calendrier juif continue, le calendrier chrétien met comme premier jour de la semaine le dimanche. C'est le sabbat qui reste le jour principal dans la semaine juive. Et en même temps, la résurrection accomplit la création. Ça, c'est capital. Et personnellement, je trouve que dans notre formation chrétienne, en tout cas dans la mienne, dans la catéchèse, on n'insiste pas assez là-dessus. La résurrection est l'accomplissement du dessein créateur de Dieu. Le Père a créé le monde en vue de la résurrection de son Fils et la nôtre. Hein? Voilà. Alpha et Oméga, dira l'Apocalypse. Et le grand texte qui dit cela, c'est 2 Maccabée 7, n'est-ce pas, le discours de la mère des 7 frères, fils martyrs, n'est-ce pas, première fois qu'il est question de l'expression de la création à partir de rien, hein, on peut discuter, enfin, pas entrer dans la discussion exactement sur la portée, mais la première fois qu'il est question de la création, c'est dans l'espérance de la résurrection. La Bible dit cela. Il n'y a pas de résurrection qui ne soit de l'ordre de l'accomplissement de la création. Quand Dieu crée, c'est pour toujours, par-delà la mort, pour appeler la créature à sa communion pour toujours. Et donc, pour Jean, c'est très important, la vie éternelle. Voilà donc d'abord pour le temps, et maintenant pour l'espace. Marie, la Magdaléenne, est le lieu de la résurrection et du message pascal dans son corps, et en particulier dans ses sens. Et parmi ses sens, dans le sens de la vue. Marie, la Magdaléenne, donc elle fait vraiment le joint entre 19 et 20, hein, elle vient au présent, tôt le matin, vers me venir, qu'il y ait une telle postérité, l'heure est venue, Marie, la Magdaléenne, vient tôt le matin, de la ténèbre étant encore, séparation entre la lumière et la ténèbre, mais c'est pas comme le plein midi. Ça, c'est la version apocalyptique de la résurrection dans Matthieu, n'est-ce pas? Non, non, ici, c'est, voilà, comme disait le Père Mola, une aube sur le monde. Elle vient vers le mnemeion, le mémorial, le monument, c'est-à-dire le substantif perd cette connotation en français, le tombeau, c'est d'abord le tombeau est d'abord le rappel du défunt, c'est un mémorial. Et elle regarde la pierre enlevée du tombeau. Alors là commencent toutes les réminiscences entre la description de la résurrection en Jean 20 de Jésus et le retour à la vie de Lazare en Jean 11. Je cherche la réminiscence exacte de la pierre, mais je ne la trouve plus. Donc, et bien voilà, merci beaucoup. Il y avait une grotte et une pierre était gisante dessus. Merci beaucoup. Enlevez la pierre. Ici, la pierre est enlevée. On ne sait ni quand, ni par qui, ni comment. Et pour aussitôt, je veux terminer au moins cette séquence de 1-18 ce soir, n'est-ce pas? Elle regarde, c'est le verbe blépein précisément, qui est le verbe utilisé, par exemple, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé dans la traduction de la Septante pour Zacharie 12-10. Hein, elle regarde, une vue, une vision comme à distance. Et puis, elle va contempler au verset 12 et elle a besoin des deux anges pour s'accommoder le regard à la réalité qui se présente progressivement à elle. Et puis elle finira par voir le Seigneur au verset 18. C'est l'annonce pascale, elle vient, c'est le même verbe qui est repris au verset 18 et au verset 1, qui boucle la scène, Marie la Magdaléenne, annonçant, elle est devenue elle-même ange, angelusa, aux disciples, je me trouve voyant. C'est le verbe donc de la vision de foi. Donc, il y a tout un chemin spirituel évoqué dans la sensibilité visuelle de Marie de Magdala. Le regard doit être accommodé à la lumière du ressuscité. J'ai vu, donc c'est le parfait, je me trouve voyant, le parfait avec une valeur actualisante. J'ai vu et je vois toujours le Seigneur. Et au fond, tout le récit se trouve là en épure, n'est-ce pas? Elle doit véritablement parcourir tout un chemin dans la foi pour pouvoir confesser aux disciples son message pascal. J'ai vu le Seigneur. Elle commence par courir, elle vient de deuxième fois, donc c'est insistant. Auprès de Simon, Pierre et l'autre disciple, et auprès de l'autre que chérissait Jésus. Et elle leur dit, et voilà ce qui l'habite, n'est-ce pas? Ce qui la hante, pourrait-on dire, ce qui l'obsède, mais certains trouvent que c'est un peu trop fort, donc je n'ai plus employé le terme de l'obsession. Ils ont enlevé le Seigneur, ils enlevèrent le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils le posèrent. Hypothèse du rapt, qui est bien attestée aussi dans les versions de la résurrection, les récits de la résurrection dans Matthieu. Il sortit donc Pierre. Ah, on retrouve ce fameux verbe sortir qui a quand même toute une postérité avant, hein. Comme il livra l'esprit, ça avait toute une postérité dans la passion. Il sortit donc Pierre et l'autre disciple et ils venaient, même verbe, à l'imparfait, vers le tombeau. Et ils couraient tous les deux ensemble et l'autre disciple courut avant plus vite que Pierre et il vint le premier au tombeau. Ce qui rend compte d'une signification, on pourrait dire, concrète, hein, corporelle. Dans la terminologie du Centre Sèvres, on aime beaucoup le déplacement, n'est-ce pas ? La théologie vous fait faire des déplacements. Eh bien, la résurrection, elle nous fait faire des déplacements. C'est vraiment le cas de le dire, n'est-ce pas ? Rien d'intellectuel. Il faudrait le rappeler aussi au Centre Sèvres. Bon, donc, rien de cérébral. Hein. C'est dans le corps que ça se passe. Comme dans les yeux de Marie de Magdala. Hein. S'étant penché, il regarde, même verbe que celui qui est utilisé en premier lieu pour Marie de Magdala, gisant les linges, et voilà les linges, autre lien avec Lazare, n'est-ce pas ? Après la pierre, les linges ne sont pas employés, n'est-ce pas ? Il sortit le mort qui se trouvait enveloppé, les pieds et les mains avec des bandes, et son visage avec un suaire avait été enveloppé. Hein ? Ici, les linges. Je disais, la symbolique des vêtements chez Jean évoque le corps. Ben justement, les linges sont vides. Ils gisent. Hein ? On parle de gisant, hein, dans statues de défunts, n'est-ce pas, dans des cathédrales ou dans des lieux. Voilà. Il vient donc aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il contemple. Voilà le deuxième verbe qui sera aussi employé pour Marie de Magdala. Donc même processus de découverte progressive dans la foi de ce qui se passe, les linges gisants, et alors on vous décrit là, avec un luxe de détails, le suaire qui était sur sa tête, non avec les linges gisants, troisième fois que le terme est employé, mais en dehors, roulé en un seul lieu. Donc, ça ne laisse pas du tout penser à un événement qui aurait laissé les choses sans dessus dessous, n'est-ce pas ? Non, une sorte de description très, très formelle d'un ordre qui est respecté pour les linges. Alors ce qu'il voit, c'est vraisemblablement, vous savez, il a été enseveli à la manière juive, donc un linge côté dorsal, replié sur le corps côté ventral, et alors le suaire, c'est vraisemblablement la mentonnière qui entoure les mâchoires pour que la bouche ne reste pas ouverte. Donc, voilà, tout ça. Alors, donc, il entra aussi l'autre disciple qui vint le premier vers le tombeau. Il vit, et voilà, le verbe de la vision de foi, qui ne viendra que plus tard pour la Magdaléenne, n'est-ce pas ? Il vit et il crut. Et il a eu besoin de voir. Donc, c'est la vision de foi. Et il crut, ben, qu'est-ce qu'il croit ? Ce n'est pas dit. Hein ? Mais le verset 9 ne laisse pas beaucoup de répit, n'est-ce pas ? Il ne savait pas encore l'Écriture qu'il lui faut d'entre des morts ressusciter. Alors là, il y a deux choses qui sont dites. Il croit en la résurrection, Mais avant la résurrection, il croit en l'Écriture. Voilà. L'Écriture étant, au fond, j'aime bien dire, le corps des Écritures, le corps de l'Écriture étant le premier contenu donné au corps du ressuscité. Hein? Alors ça nous fait déjà pas mal de choses. Hein? J'aime bien toujours rappeler les trois incorporations du Logos, comme dit Origène dans un magnifique chapitre du Père de Lubac sur le titre m'échappe maintenant, sur l'intelligence spirituelle de l'Écriture chez Origène. Donc, Histoire et Esprit, voilà. Donc, c'est un livre qu'il a fait connaître dans toute la tradition patristique. Première incorporation du Logos en Jésus de Nazareth. Ben, il est évoqué. C'est pour Jésus qu'on fait ce déplacement, pour le lieu où il a été enseveli. Et alors, deuxième incorporation du Logos, l'Église, les disciples. Troisième incorporation, l'Écriture. La quatrième, c'est l'Eucharistie. Elle est en attente du chapitre 21. Elle arrivera un peu plus tard. Mais donc, il ne savait pas encore l'Écriture. L'Écriture se révèle, se découvre à eux, pas seulement aux disciples qui voient et qui croient, c'est un pluriel. Ils ne savaient pas encore l'Écriture. L'Écriture s'ouvre pour eux à la vision des linges et induit la foi en la résurrection. Donc, le corps des Écritures est médiation majeure pour la foi en la résurrection de Jésus. S'éloignèrent donc de nouveau auprès d'eux-mêmes les disciples. Donc, réfléchir un peu à ces choses. Et alors, voilà, ça c'est Jean 20, n'est-ce pas, Marie de Magdala au premier plan. Elle, on continue à mettre plein feu, n'est-ce pas, sur ce qu'elle vit. Marie se tenait auprès du tombeau dehors. Thomas sera dedans, à l'autre extrémité du chapitre 20, n'est-ce pas, en pleurant. Il ne pleura pas, Thomas. Plutôt s'énerver, n'est-ce pas. Comme donc elle pleurait, elle se pencha vers le tombeau et elle contemple deux anges en blanc siégeant, un auprès de la tête et un auprès des pieds, là où avait été gisant le corps de Jésus. Il n'y a qu'un seul lieu dans la Bible qui fasse l'objet d'une telle description aussi soignée, n'est-ce pas? C'est en Exode, je vais vous surprendre un petit peu, Exode 25, 17, la description du propitiatoire, donc l'autel des sacrifices dans le temple. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de deux coudées et demie de long et d'une coudée et demie de large. Tu feras deux kéroubim, des chérubins, des brûlants, donc plutôt des sortes de cierges à portée liturgique, n'est-ce pas? Tu feras deux chérubins d'or repoussé, tu les feras aux deux extrémités du propitiatoire, fais l'un des chérubins à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité, tu feras les chérubins faisant corps avec le propitiatoire à ces deux extrémités. Alors voilà, le médiateur. Hein? Mais Marie a besoin des anges, des envoyés pour s'accommoder le regard à une réalité inouïe. Invisible aussi, qu'est-ce qu'elle a vu, hein? C'est toujours très difficile de savoir, n'est-ce pas? Il n'y a que la médiation du texte qui nous permet d'entrer dans le mystère. Elle contemple deux anges en blanc, hein? Le monde apocalyptique est caractérisé par les anges et les démons, n'est-ce pas, les médiations entre ciel et terre. Un auprès de la tête et un auprès des pieds, là où avait été gisant le corps de Jésus. Et ils lui disent cela, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, Ils enlevèrent mon Seigneur et je ne sais pas où ils le posèrent. Ils enlevèrent mon Seigneur, elle avait dit, ils enlevèrent le Seigneur du tombeau, et au début, au verset 2, nous ne savons pas où ils le posèrent, je ne sais pas où ils le posèrent. Donc, c'est encore plus sa subjectivité qui est engagée ici. Ces choses, les ayant dites, elle fut tournée vers l'arrière. Donc, premier mouvement, sorte de conversion, hein, verbe retourner, et elle contemple, deuxième fois que le verbe est employé, c'est le même verbe qui était employé pour les deux anges, Jésus, debout, et elle ne savait pas qu'il est Jésus. Donc d'abord une naissance, une ignorance. Et Jésus reprend exactement les paroles des anges. Donc ça veut bien dire qu'il faut respecter des médiations. Hein. Ce que les anges ne demandaient pas, c'est « Qui cherches-tu ?» Et donc voilà hein, le point d'aboutissement de cette question depuis le début au chapitre 1. « Que cherchez-vous ? Qui cherches-tu ? » Ayant l'opinion qu'il est le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si toi tu le chargeas, dis-moi où tu le posas et moi je l'enlèverai. » Voilà ce qu'elle veut faire. Hein. Donc, on l'a enlevé, mais donc il faut absolument le récupérer. Marie Rabouni. La relation est établie. On avait vu le même procédé entre Jésus et Nathanaël au début. Dès que la relation est, le déclic s'opère. Ne t'empare pas de moi. Le parallèle le plus éloquent pour comprendre le sens de ce verbe arrive dans la première de Jean, au chapitre 5, verset 18, donc vers la fin de la première grande épître. Nous savons que tout qui a été engendré de Dieu ne pèche pas, mais celui qui fut engendré de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne s'empare pas de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas « ne me touche pas », mais « mu aptu », « noli me tangere ». Non, non, ne t'empare pas au sens « ne fais pas de cette réalité que nous vivons ton affaire ». Je ne suis pas encore monté auprès du Père. Je suis assez grand pour me révéler comme ressuscité à qui je veux, comme je le veux et quand je le veux. Hein. Va auprès de mes frères, tout de suite. La qualité de la relation au ressuscité induit la qualité de la mission. Va auprès de mes frères. Première fois que le terme est employé par le ressuscité pour les disciples. « Dis-leur, je monte auprès de mon Père et votre Père, et mon Dieu et votre Dieu. » Ça, c'est la nouvelle alliance. C'est-à-dire, le ressuscité nous fait vraiment entrer dans sa vie de fils par rapport au Père. L'engendrement de Dieu, c'est ça. Il suppose la résurrection, ça c'est clair. Elle vient, Marie la Magdaléenne. Et alors, vous voyez, c'est intraduisible. Mais les anges, c'est les angéloi. Et quand il est dit « annonçant aux disciples », je l'ai suggéré en lisant le texte il y a un instant, elle devient elle-même ange. Angelusa. Hein, on va fantasmer là-dessus, entrer dans la réalité vécue du témoignage. J'ai vu le Seigneur, et alors c'est la seule chose qui lui soit imputée dans son discours, n'est-ce pas ? Et ces choses, il les lui dit, ça c'est la reprise du récit. Eh bien, nous nous retrouverons après Noël, et l'an prochain, bonne fête de Noël, et tous mes vœux pour une heureuse année. Merci.